Donc c'est un format un peu particulier là ce soir, puisque la question du travail, je vais en dire deux mots, aujourd'hui est présentée à partir d'un documentaire de Laurence Jourdain qui s'intitule, je ne veux pas me planter, Ce show, Cadence en chaîne, un documentaire de 2010, qui va vous être projeté, qui a 52 minutes. À l'issue de ces 52 minutes, ce qu'on vous propose, c'est une mise en débat, une réflexion à partir du documentaire et de deux personnes qui sont directement concernées par ce documentaire. Donc Christian Corrouge, alors il est présenté comme ancien ouvrier, donc il vous donnera, si on a des catégories assez simples, un point de vue un peu d'acteur. Et puis, Michel Pialou, qu'on présente comme sociologue, chercheur, je vais comment dire, donc c'est l'autre point de vue. Mais ensemble, ils ont écrit cet ouvrage. Alors, on n'en a qu'un exemplaire là, parce qu'il y a un petit bug avec la table de librairie qui aurait dû nous amener quelques ouvrages, pour que vous puissiez les consulter éventuellement. Les acheter, résister à la chaîne dialogue entre un ouvrier de Peugeot, je pense que c'est toi, et un sociologue, pas de Peugeot en l'occurrence, un sociologue du service public, c'est toi, chez Agone, donc on pourra le mettre un peu là sur la table, mais vous ne pouvez pas le prendre ni l'acheter, donc c'est édité chez Agone, qui est une excellente maison d'édition, et pour la modique somme de 23 euros. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas encore que le classique Stéphane Beau, Michel Pialou, Retour sur la condition ouvrière, publié chez Fayard, vient de sortir dans un format de poche. Elle a découvert avec une postface, donc il montre qu'entre temps vous avez un peu travaillé et vous êtes retourné sur le retour de la question ouvrière. Et donc là encore, on peut éventuellement le mettre en démonstration, mais vous ne pourrez ni le prendre ni même l'acheter.
Faire une séance d'analyse du documentaire façon cahier du cinéma. Le sujet, c'est de réagir un peu par rapport au documentaire et puis peut-être situer votre collaboration. Ce qu'on s'est dit, c'est que Christian Corrouge pouvait commencer à dire quelques mots. Michel, tu enchaînes après. Et puis ils auront l'occasion. Par la suite, dans la réponse aux questions que vous ferez, si vous n'en avez pas, moi j'en ai quelques-unes, de prolonger ce qu'ils ont à dire, parce qu'on n'est pas toujours capable de dire plein de choses en un peu de temps. Tu peux commencer.
Alors, je vais commencer simplement. Moi, je suis rentré à l'usine en 69, donc on était 44 000 à l'usine à l'époque. Et donc j'avais 17 ans et demi quand je suis arrivé à ce show. Je venais de Normandie. À l'époque, les conditions d'embauche étaient différentes à maintenant. Maintenant, il y a une grande période de chômage et de crise, mais à l'époque, c'était les représentants de Peugeot, de Moulinex ou de Renault qui nous démarchaient dans les CET. Moi, je suis originaire de Cherbourg, donc dans la Manche, et on voyait arriver dans l'année de notre CAP des représentants des différentes usines qui venaient nous chercher directement dans les CET. Et le représentant de Peugeot, donc, de Sochaux, avait un discours qui était admirable. Il disait 16 km de la Suisse, 80 km de l'Allemagne, 150 km de l'Italie. Vous imaginez, vous avez 17 ans et demi, vous êtes à Cherbourg, là, un peu quand même, pas trop bien, quoi. Impeccable, quoi. Et c'est dans ces conditions-là que je suis arrivé à ce show. Et donc, j'ai travaillé en chaîne avec un CAP. Souvent, à l'époque, il y avait encore le service militaire. Ça veut dire que quand on avait un CAP, jusqu'à service militaire pour les garçons, pour les hommes, on restait souvent en chaîne, ce qui permettait à Peugeot de nous juger, savoir un peu notre allégeance à l'entreprise, savoir si on était des... Dans 4 et 68, donc il faut bien mesurer, savoir si on était des dangereux gauchistes, savoir si on était des opposants à sa politique. Et donc, ceux qui s'étaient mal tenus avant le service militaire, avaient montré des mécontentements, et bien continuer en chaîne. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, je suis rentré de l'armée et on m'a remis en chaîne. Donc, j'ai travaillé 22 ans en chaîne dans des postes plus ou moins pénibles, parce qu'une chaîne de montage, c'est pas quelque chose qu'on. À l'image, c'est toujours compliqué de montrer. En cinéma, on a beaucoup de difficultés à montrer cet aspect-là parce que ça va pas très vite. En même temps, ça va vite quand on est dessus. Et la deuxième chose, c'est que les postes ne sont pas tous pesés pareil. Ça veut dire qu'il y a des postes de travail qui ont beaucoup plus de travail que d'autres. C'est ce qu'on appelle les postes de punition. Donc il y en a deux par équipe, où les gens qui se conduisent mal, soit des grévistes, soit des gens qui s'oublient, qui arrivent en retard, qui sont trop souvent malades, qui s'engueulent avec le chef, enfin voilà, pas grand-chose, des choses de la vie normale, se trouvent bloquées à des postes de punition pendant 15 jours ou 3 semaines, de quoi un peu les redresser, comme on dirait dans un langage militaire, pour qu'après, ils deviennent des bons ouvriers. Alors, il faut bien se rendre compte de ça, ces usines, parce que le débat ne va pas porter là-dessus, mais sur le film de Laurence. Mais dans la perception du film, on voit la robotique arriver, on voit tous ces secteurs-là. Qu'est-ce que ça fait quand on travaille en chaîne à un moment donné, qu'on voit toutes ces nouvelles technologies arriver, l'informatique débarquer sur les chaînes de montage, etc. On se sent très, comment dire, fliqué et en même temps très dépossédé d'un savoir-faire. Faut pas oublier que chez les OS en chaîne, le mouvement des OS commence à partir de 1960 pratiquement, à savoir des revendications pour qu'on passe maximum de temps sur la voiture. On s'était tous rendu compte, mais avant beaucoup d'autres gens, il suffit de lire Lienhardt, l'établi par exemple, pour savoir que plus on passait de temps sur une voiture, et moins on devenait con. Et c'est la répétitivité et la vitesse d'exécution des chaînes qui empêchent le cerveau de travailler normalement comme chez tout humain normal. Et donc les enjeux étaient là. Nous, on le sentait bien sur les chaînes de montage, l'arrivée de l'informatique, par exemple. Une anecdote. Quand il y avait un incident dans une équipe pour une malfaçon, un défaut sur une voiture, sur une chaîne de montage, etc., le chef d'équipe notait sur son carnet avec un crayon de papier, à telle heure, un tel a fait un défaut. Bon, le gars aurait été sanctionné. Ce qui se passait le soir ou le midi, suivant qu'on travaillait du matin ou l'après-midi, on allait voir le chef d'équipe ensemble, toute l'équipe, on lui disait « si tu sanctionnes Albert parce qu'il a fait une connerie, demain t'en auras le triple ». Le gars, il disait « bon, après tout, il n'y a pas trop d'incidents, il gommait ». Sauf qu'avec l'entrée de l'informatique, c'est plus comme ça. Chaque personne signe sa voiture. Et les chiffres ne sont plus négociables par la maîtrise, ça va directement dans les bureaux des chefs de service, qui eux ne nous connaissent pas. Donc voilà, quand on est intérim et qu'on fait deux malfaçons, on est à la porte, et quand on est en CDI et qu'on fait des malfaçons, on est changé de poste, et souvent dans un poste encore plus compliqué. Voilà ce qui arrive, c'est ça l'introduction de l'informatique, ça veut dire ça. Et en même temps, il y a une recomposition du paysage ouvrier, à savoir que les embauches se font, les CET, l'éducation nationale s'est beaucoup transformée dans ces années-là, n'a plus formé des CAP d'ajusteurs ou de fraiseurs ou de tourneurs, elle fait des bacs pro. Or, les bacs pro n'ont pas forcément les mêmes, je dirais pas les mêmes valeurs, mais le terme me semble pas trop bon, mais n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Nous, quand on rentre comme ouvrier dans une usine, on sait ce qui nous attend, notre père, notre grand-père y a souvent été, on sait qu'un patron, c'est jamais bien, on sait que ce qu'il faut pour arriver à avoir quelque chose, ben c'est se bagarrer pour avoir quelque chose de mieux, etc. Or, les bacs pro, cette éducation qu'on avait dans les CET, etc., disparaît, et souvent les bacs pro emmènent un déroulement de carrière avec eux plutôt qu'une activité solidaire de groupe avec les anciens. Voilà tout ce que j'ai à dire immédiatement. Je passe la parole à mon ami Michel Pialou, puisque voilà.
Oui, très bien. Moi je vais enchaîner, mais rapidement, parce que on va revenir aux réponses que tu peux fournir à des questions. Bon, moi je suis arrivé à Sochaux en 83. Pour la première fois, je débarquais à Sochaux, mais comme sociologue, parce que depuis 2 ans, j'avais beaucoup envie de travailler avec Christian. Christian, dans le récit qu'il a fait de sa vie, il a omis quelque chose de très important. Il est arrivé à la fin de 68 en Sochaux avec un CAP d'ajusteur. Hein, et quelque chose d'important dans sa carrière, c'est qu'il va rester OS pendant 30 ans. À la fin, quelque chose va se rétablir. Mais bon, il arrive à ce moment-là, et il est repéré par la direction très vite comme un type qui est une mauvaise tête. Hein. Je crois qu'il y avait une grève des 69 des pistoleurs, il a marqué son soutien avec les grévistes, etc. Il est repéré, et à partir de ce moment-là, dans les années 70, il y avait une certaine stratégie de Peugeot qui était de faire partir le plus vite possible les mauvaises têtes, soit en les mettant par les postes sur des postes de punition, soit en leur refusant toute promotion. Bon, il y avait une logique de ce genre. Et Christian est repéré très vite. Mais ce qu'il marque encore plus, c'est qu'il va participer à une activité culturelle et cinématographique. Il va être dans le noyau responsable de ce qu'on a appelé les groupes Medvedkin. Les groupes Medvedkin, ce sont deux groupes d'ouvriers et de cinéastes qui vont travailler d'abord, enfin, parallèlement, quelquefois à Besançon et à Sochaux. Il y a toute une histoire de ces groupes Medvedkin qui est bien faite maintenant, parce que ce sont des groupes auxquels ont participé des grands cinéastes comme Fritz Marker, Godard un moment, etc. Il y a eu une activité très forte qui a duré jusqu'en 74-75, et Christian va travailler avec à l'intérieur de ce groupe, notamment avec un cinéaste qui s'appelle Bruno Muel, et qui va marquer l'histoire du cinéma militant, du cinéma ouvrier, mais l'histoire du cinéma tout court. Et il va être très présent. Il y a une question qui se pose à ceux qui analysent l'histoire de Sochaux à ce moment-là, c'est pourquoi Christian est-il resté à l'usine et pourquoi n'a-t-il pas fait comme la plupart de ses copains, notamment ceux qui étaient dans le groupe Medvedkin, qui étaient en butte à toutes les violences de la direction, pourquoi n'a-t-il pas foutu le camp et n'est-il pas allé travailler ailleurs? Parce que dans les années 70, c'est possible de s'en aller et d'aller travailler ailleurs, surtout quand on a un CAP d'ajusteur. Bon, et il va rester, il va en encaisser beaucoup de choses. À la fin des années 70, il va faire une grave tentative de suicide, il va avoir des copains qui vont se suicider, la direction veut avoir sa peau. Je raconte ça parce que c'est une façon d'expliquer les raisons pour lesquelles je suis arrivé en 83 à Sochaux. J'avais des liens avec Bruno Muel, ce cinéaste, sa femme qui était sociologue et que je voyais souvent, et qui me disait vraiment ce serait extrêmement intéressant que tu ailles à Sochaux et que tu fasses quelque chose avec Christian. Il va mal, il va très mal, il essaie de faire des cassettes tout seul, et je me rappelle en avoir entendu une. Il est au PC, et assez vite Christian avait pris des responsabilités dans la CGT. Je crois qu'il a été le plus jeune délégué de l'usine en 71-72, mais après, avec les responsables du PC, il s'engueulait de plus en plus fréquemment. Il se fait exclure du PC avec un groupe de gens en 74-75. Il va y revenir après d'ailleurs, et puis il se fait exclure une deuxième fois. Mais il a des problèmes, et ce serait intéressant que tu travailles avec lui. Alors je raconte ça, c'est pas des anecdotes, simplement parce que c'est un volet de son existence qui est la question du militantisme, qui est la question du collectif ouvrier, des conditions dans lesquelles le collectif ouvrier, en gros, et puis les collectifs ouvriers sur les chaînes, hein, il y en a diverses sortes de collectifs, comment ils fonctionnent dans l'usine de l'époque. Voilà, et quand j'arrive en 83, Christian est à la fois en forme, parce qu'il y a eu une grève à Peugeot-Sochaux en 81, en octobre 81, c'est-à-dire après l'arrivée des socialistes au pouvoir. Ils sont arrivés en mai 81, Mitterrand, et la première grève, ça se passe en octobre 81. Après, en 82-83, il va y avoir des grèves dans l'automobile, des grèves d'OS très importantes qui vont apparaître comme des grèves d'immigrés, parce que ça se passe à Aulnay, à Talbot, à Poissy, il y a des bagarres qui vont faire la une des journaux, mais on va dire que c'est des grèves d'immigrés, puis à partir de ce moment-là, la question de l'islamisme, de la nécessité de mettre des mosquées en place dans les usines, ça va occuper beaucoup de place. Mais la grève de 81 a été très importante, et c'est au fond Christian qui en a été le leader principal, de telle sorte qu'il va aller négocier à l'avenue de la Grande Armée, au siège de Peugeot, à Paris, sur les objectifs de cette grève et sur les revendications des OS. Bon, et je le rencontre à Paris à ce moment-là, et puis c'est après ça que je vais à Sochaux. Et je raconte ça un peu parce que c'est ce livre-là, Résister à la chaîne, c'est un livre qui a été écrit, enfin, c'est un dialogue, ça a été fait avec un magnétophone, entre 83 et 86, quand j'étais venu, j'avais trouvé si passionnant ce qu'il faisait, et ce qu'il me racontait, que j'ai dit, il faut que ce soit reconnu par une instance, bon, les socialistes, ils sont là, ils sont au pouvoir, c'est des choses qu'ils n'ont jamais entendues, donc, on avait fait un contrat avec le commissariat au plan et on avait eu 20 000 francs pour faire transcrire des cassettes, etc. Et c'est quelque chose. Après, c'est un texte qu'on a oublié totalement, l'un et l'autre. J'en avais perdu même la moitié. On en avait tiré 25 exemplaires. Mais on en avait fait quand même 4 ou 5 articles signés de nos deux noms dans la revue de Bourdieu, Acte de la recherche en sciences sociales. Excusez qu'on. On continuait à en parler. Bon, je raconte tout ça parce que pour marquer que la question du travail est une question capitale, formidable, mais quand on parle d'une usine comme Sochaux, c'est aussi intéressant de voir comment fonctionne le collectif de travail, comment et il y a un travail politique qui est lent et long, qui prend de multiples formes, qui fait exister ce collectif. Quelque chose qui était au centre de la réflexion de Christian, c'était le silence des OS et la captation du discours des OS quand ils en avaient un par les OP, les professionnels de l'usine. C'était l'usine de Sochaux dans les années 70, et aujourd'hui c'est devenu une usine de montage. À ce moment-là, il y avait 8000 ou 9000 ouvriers professionnels. C'était le plus grand rassemblement d'ouvriers professionnels de France. Et c'était un peu le cœur de la classe ouvrière, celui qui tenait un discours. Et le propos de Christian, ça a toujours été l'expression des OS est écrasée par le discours des ouvriers professionnels qui croient parler en leur nom, qui quelquefois avec de la bonne volonté parlant leur nom, mais qui ne comprennent pas grand-chose à la revendication de fond. Et voilà ce qu'il me raconte entre 83 et 85, c'est cette histoire-là. Et puis ça le fait délirer. Je m'excuse du mot. Enfin, voilà, il me raconte ça avec une passion formidable. Il va faire une nouvelle tentative de suicide, il va m'expliquer la dureté de ses rapports et avec ses copains du groupe de travail et avec ses copains de la CGT qui ont des mots pour le disqualifier tout en reconnaissant qu'il a raison, etc. Et voilà. Bon, donc je m'arrête là parce qu'après c'est intéressant de revenir à ce que Christian disait autour du travail, mais c'est pour expliquer que souvent dans les analyses sur le travail, on voit que le moment travail. Et dans le bouquin qu'on a écrit avec Stéphane Beau, puisqu'on a travaillé après pendant un temps sur les questions de transformation de cette usine, on a voulu toujours faire attention à ça. On va regarder de très près la question du travail, des formes de transformation du travail, qu'est-ce que c'est que le taylorisme, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on parle de post-taylorisme. Laurence Jourdan a travaillé avec nous. Et c'est capital et c'est quelque chose d'essentiel. Mais on a dit tout de suite, quelquefois on s'enferme dans on réduit la condition de l'ouvrier à celle du travailleur qui est sur sa machine. Et donc d'emblée, avec Stéphane Beau, quand on s'est mis à travailler, on a dit, on ne peut pas séparer ça de l'évolution de ce qui se passe dans le système scolaire. Et ça apparaît indirectement à travers les images qu'on a eues. Qu'est-ce que c'est que quel type de travailleur doit venir sur ces nouvelles machines, le rapport à l'électronique, le fait que les CAP de type à l'ancienne, type ajusteur, etc., qui formaient cette élite professionnelle que j'évoquais tout à l'heure, enfin, qui était dotée de ces diplômes. Bon, ces diplômes vont se trouver dans l'espace de 4 ou 5 ans valorisés, et les OP, une fraction importante des OP va se trouver réduite à un état très proche de la situation des OS, et ça va engendrer des formes de ressentiment particuliers, et en même temps, il va y avoir création des bacs pro, etc. Nous, il nous semblait qu'il fallait étudier ces choses ensemble. Voilà. Et que si on voulait comprendre quelque chose aux transformations du monde politique aussi, et du monde syndical, et à la crise formidable qui naît au milieu des à partir du début des années 80, parallèlement aux transformations du travail, il fallait tenir au moins ces trois questions ensemble.
Peut-être passer à des questions de la salle.
Il y a une question pour Christian. Dans le film, on entend deux types de discours. Il y a le patronat qui dit, pour nous, c'est une question de survie. Il faut que l'usine survive parce qu'il y a un contexte de concurrence, etc. Il y a la parole de l'ouvrier qui dit, mais c'est notre vie qui est en danger, et il y a une antinomie forte. Et est-ce que ton expérience, maintenant que tu es retraité, est-ce qu'il est possible d'imaginer un dialogue entre le monde ouvrier et le patronat qui ne soit pas une confrontation directe et dure entre ces deux? Ces deux revendications de survie, est-ce qu'on échappe comme ça, ou est-ce qu'on est dans un rapport de force assumé et il n'y a pas d'autre voie à ça?
Moi, je crois qu'on est dans un rapport de force à assumer, mais moi, c'est ma conviction personnelle, aussi politique, à savoir que quand on rencontre la direction Peugeot, moi, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, donc toutes les négociations sont les doigts au bout, cette haine qui sort de leur part, quelque part, je me dis quand même que non, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Il faut trouver des systèmes de gestion dans les entreprises complètement différents. Il faut parler de la part des actionnaires, il faut parler un peu de la partie du gâteau. Que eux, quand je l'entends discuter, Jean Barre, parler de l'entreprise, il parle de l'entreprise. Il parle pas des gens qu'il y a dedans. Il parle de sa boîte et de ses actionnaires. La rentabilisation de son capital. Voilà, la famille Peugeot. C'est que de ça qu'il parle. Nous, on parle autrement. On parle... De la boîte en tant que telle, des développements du social du personnel, mais aussi de l'avenir de leurs enfants. Parce que c'est ça aussi une région qui vit. Vous avez assez vécu ça dans le Nord, avec les fermetures de boîtes. On voit bien que quand tout est déstructuré, c'est toute l'éducation nationale des pans complets qui s'installe dans la misère, dans la souffrance. Et c'est bien ça le problème. Alors, est-ce qu'il y a possible de négocier? Ben oui, on peut toujours négocier avec les patrons. Moi, ce que je sais par mon expérience, c'est à Sochaux, par exemple, en 68, avant d'obtenir des négociations, alors qu'il y en avait eu partout en France, Peugeot, pour pas négocier, a appelé les gardes mobiles. et les CRS qui ont fait un carton qui, le même jour, en 3 heures de temps, ont tué 2 ouvriers par balle et en ont blessé 152 autres. C'est la seule région de France où ça se passe comme ça. Où quelque part, on a aligné les mecs, l'on a mis, on les a tirés. Mais il faut se rendre compte, c'était 68. Quand on parle de l'anniversaire de 68 et qu'on en parle partout, on ne parle pas de ces aspects-là obscurs de la classe ouvrière et du matraquage systématique. On ne parle pas de la répression. Après, quand le CNPF a tiré les enseignements de 68 à partir de 73, qu'il établit un plan de campagne radical de casser les grandes identités ouvrières, donc Billancourt et Sochaux, donc diminuer les effectifs pour les effets de résistance et de mauvais exemples créés, faire des plus petites unités, c'est là qu'il commence la politique de l'artichaut, il commence à faire les moteurs à Douvrin, etc., qui commence à un peu à répartir autrement les choses. Mais en fin de compte, tout est un rapport de force. Le patron bouge ses lignes dans la mesure où nous, on progresse. Et c'est toujours ça le danger. La dernière expérience, quand le gars dans le film de Laurence est déguisé en vert. Alors là, c'est une anecdote qui est superbe. Peugeot, dans ces années-là, pense qu'il y a des bons ouvriers et des ouvriers informables. Les ouvriers informables, c'est nous, hein, les cons, là. Hein. On ne sait pas taper à la machine, l'informatique pour nous, c'est quelque chose de complètement... On est informable, voilà, c'est le terme qu'il emploie. Une population informable, voilà. 40 ans, informable. Voilà. Qu'est-ce qu'on devient? Ben, d'ailleurs, je ne sais pas, importe, il aurait pu...
Inconvertible.
Inconvertible.
La direction qu'on a souvent entendue.
Voilà, inconvertible. Et donc, en 88, il décide de moderniser tout un pan de l'usine. Il construit les bâtiments, avec l'aide d'ailleurs des pouvoirs publics. Il faut toujours un peu aider les patrons, il faut toujours un peu leur en donner, hein, parce que autrement, il y a un moyen de pression considérable. Hein. C'est ça le chômage, hein, donc les autres y donnent. Il construit une usine très moderne, et dedans, il choisit du personnel pour y rentrer. C'était l'époque où on lançait la 605. Et ce personnel choisi et par la maîtrise... c'est du personnel qui n'a jamais fait grève, qui pense qu'il vote bien, qui n'est jamais absent, jamais malade, jamais rien. Pas de problème. Et c'est ces gens-là qui sont directement virés au sud, on appelle ça l'usine du sud, donc, et qui vont donc peupler ces nouveaux ateliers. Et nous, les vieux, les ringards, ceux qui n'ont rien compris à l'histoire de la société, on reste dans la vieille usine, voyons partir... Ben, ces gens, ces meilleurs ouvriers, meilleurs que nous, des délinquants primaires, bons à rien, etc., informables, voilà. Et on se dit, putain, on est mal barré, quoi, vraiment mal barré. Et il arrive des élections professionnelles, dans le même temps, 3 mois après. Et on se dit tous, syndicalement, on va se prendre une branlée. Ils ont pris tous les meilleurs, tous les bons, ceux qui n'ont jamais fait grève, ils les ont enfermés dans un local, on n'a même pas le droit d'y pénétrer. Et donc, normalement, aux élections professionnelles, on devrait voir une majorité de gens voter pour ces syndicats un peu collabo, LFO, CFTC, CFT, puisque nous, on avait la CFT, syndicat indépendant, enfin, les syndicats patronaux. Et... le soir du dépouillement, on s'aperçoit, nous, avec stupeur, mais encore plus celle de la direction, c'est que si la CGT a 55% des voix à l'ancienne usine, elle en a 54% dans la nouvelle usine. Alors, le patron a une parole historique, mais vraiment belle, il dit à ses cadres, qui réunit, et leur dit « c'est des pastèques ». Verte à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Et quand il s'avère que l'investissement de l'usine continue et qu'il faut déplacer cette population ouvrière de la vieille usine toujours à la nouvelle qui a fini de se construire, eh bien là, Peugeot n'hésite plus, il prend tout le personnel du balayeur au chef d'équipe et il emmène tout le monde directement de l'autre côté dans l'usine moderne. Et ça se passe bien. Parce qu'après, il y a une autre question qu'il faut se poser, c'est quelques mois après qu'on a eu les résultats, les chiffres, à savoir dans cette nouvelle usine, avec du personnel choisi par la maîtrise, élu par le patron, hein, bien désigné, la bonne race, quoi. Et là, on s'aperçoit qu'au niveau qualité, 3 mois après qu'on a les chiffres de la qualité, on s'aperçoit qu'il y a 10% de défauts faits par ces gens bien. Or, en déplaçant le personnel de la vieille usine tous ensemble, les équipes complètes, et directement en les mettant à faire des bagnoles, on retombe à des chiffres normaux, 3-3,5%. Donc, à force de réunir les imbéciles là, qui votent bien, qui font jamais grève, etc., mais qu'il n'y a pas d'opposition, ben, ils deviennent complètement détanches, quoi. Ils deviennent, plus rien, quoi. Mais des cons qui se croisent, hein, ça reste con. Hein. Voilà, c'est tout. Et la direction a très bien compris ça. Mais on voit bien les tentatives du patronat, et c'est pour ça que c'est toujours difficile de négocier. Parce que négocier sur quoi? Négocier sur un eugénisme de dire on choisit une population, puis eux peuvent crever. On négocie quoi, là? Bon, moi, j'ai toujours pensé que il y a une chose fondamentale dans ces groupes ouvriers. On peut moi, j'en veux beaucoup à plein de gens, parce qu'on considère beaucoup à gauche comme les ouvriers, ben, c'est une masse. Alors, longtemps, le PC a eu cette utilisation, quoi. Bon, la classe laborieuse, la classe ouvrière. Mais dans cette classe ouvrière, c'est suivant si on est haut de la pile ou en bas de la pile, on ressent les choses différemment. Par exemple, en 81, il arrive les 39 heures. Si vous êtes technicien, eh ben, vous avez un quart d'heure de moins par jour. Si vous êtes ouvrier professionnel, vous avez un quart d'heure de moins par jour. Si vous êtes OS, vous avez un quart d'heure de moins par jour aussi. Mais la vitesse de chaîne a été augmentée, il n'y a pas eu d'embauche, donc vous payez votre quart d'heure. Et vous le payez aux autres en même temps, hein. C'est ça. Alors, à un moment donné, les 35 heures, comme dit Bruno dans le film, la flexibilité n'arrange rien. Qui va travailler le samedi, deux samedis par mois après, 5 séances du matin? Ça veut dire se lever quand même, pour les gens qui habitent loin, c'est se lever à 3h30 le matin. Et donc, faut se taper 6 jours dans ces conditions-là. Or, les comptes clients achètent toujours des voitures l'été. Ils les achètent jamais l'hiver. Or, ces usines ne sont pas climatisées. Et se taper des bagnoles quand il fait que 35 ou 40 degrés un samedi matin, qu'on n'a pas envie d'y aller et que c'est obligatoire, ça donne pas envie, hein. Et tous ceux qui nous ont filé ce genre de loi, quand même, quelque part, mais qui ont été incapables, après, d'aller visiter l'usine pour discuter, non pas avec les directions, mais pas ni forcément avec les directions syndicales, mais simplement avec les mecs au bord des chaînes, pour savoir ce qu'ils pensaient de la beauté du geste, bah, il serait bien d'y retourner, hein, parce que quand on dit la retraite, le grand débat sur la retraite qu'il y a eu, là aussi on peut discuter, je veux dire, suivant qu'on rentre à l'usine à 30 ans avec un diplôme d'ingénieur, etc., bah, qu'on irait jusqu'à 70, après tout, pourquoi pas. Mais par contre, quand on est rentré à 18 ans sur une chaîne de montage, comment qu'on fait quand on a 56, 57, quand on commence à être timbré de tous les côtés, comment on fait pour y vivre? Et là, il n'y a pas de solution. Alors le CNPF, à l'heure actuelle, faut négocier de quoi? Moi, quand j'ai eu 58 ans, moi, j'ai été convoqué par la direction. Et on m'a dit, voilà, monsieur Corrouge, on vous propose 71 000 euros pour partir. Voilà. Ben, pas de problème, hein. 71 000 euros, j'ai jamais eu dans ma vie. Je veux dire, c'est une somme considérable pour quelqu'un qui gagne peu. Enfin, bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh ben, c'est facile. Vous avez deux papiers à signer. Un papier par lequel, d'abord, on vous licenciera pour faute grave. C'est-à-dire, vous restez 15 jours absent de l'usine. Ça va. On vous paye. On vous paye. Pas de problème. Mais vous êtes absent de l'usine. Donc on vous licencie parce que vous n'êtes pas à votre travail. Vous nous signez un papier par lequel que vous attaquez au prud'homme. Et en même temps, vous signez le papier par lequel on a négocié. Voilà. Et ça fait 71 000 euros. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est ce qui se passe pour 1500 l'année dernière chez Renault et pour 1200 dans l'usine à PSA en 2011. C'est ce qui se passe, c'est la réalité. Alors quand on pose la question, mais comment qu'on vit de 58 ans à 60, ou peut-être 62, peut-être 65, on ne sait pas, parce que maintenant l'âge de la retraite est fluctuant, hein, suivant qu'on est. Alors, il n'y a pas de problème, il y a des assédiques. Vous avez assez cotisé. Vous n'avez jamais été chômeur. Vous vous rendez compte? Vous cotisez depuis l'âge de 18 ans, vous n'avez jamais été chômeur. Il est normal de pouvoir vivre 2 ans ou 2 ans et demi avec les assédiques. C'est comme ça que c'est proposé. Ça veut dire que d'une caisse de secours avec des luttes ouvrières, le CNPF s'en empare, enfin le MEDEF s'en empare, pour devenir un pis-aller pour la gestion des vieux ouvriers fatigués des chaînes de montage. Et tout le monde accepte. Est-ce qu'on a entendu un candidat, Mélenchon pour l'instant? Mais les autres, j'ai jamais entendu un député socialiste taper du poing sur l'Assemblée nationale, ni de droite d'ailleurs, taper du poing en disant que c'était scandaleux quand on parlait des déficits publics et qu'on était arrivé là. Et pourtant, on sait ce qui se passe. Alors maintenant, avec le changement de date pour la retraite, les indemnités d'assédic, dire 2 ans et demi pour 2 ans et demi seulement, mais à 62 ans, ça devient dur. Donc Renault, qui a fait partir des gars à 57 ans, ils sont en fin de droit assédic. Donc ils leur proposent des missions d'intérim de 6 mois. Et Peugeot aussi, on est confronté au même problème maintenant à Sochaux, à savoir Peugeot propose pour ces gars qu'il a foutu dehors, d'une façon honteuse, pour qu'ils aient un petit revenu, pour pas que ça fasse tâche, et surtout pour pas qu'ils parlent, eh ben on les rembauche 6 mois en intérim. Voilà, pour arriver à leur retraite. Non mais, enfin, on va... Et c'est ça la situation, suivant la catégorie. Alors, il y a bien une classe ouvrière, oui, dans les faits, je veux dire, créatrice de plus-value, etc., ben, bien sûr. Mais seulement, au poste où on est dans cette classe ouvrière, on ressent les choses qui sont faites des fois par des gens qui veulent notre bonheur à tout prix, hein, mais des fois ça se termine par du malheur d'aller travailler le samedi. Hein.
je reviens à ta question, parce que c'était une question de fond que tu posais. Au fond, pourquoi durcir les relations comme ça? Je répondrai simplement. C'est que, dans du fait de l'histoire française, sans doute, hein, du fait de l'histoire particulière, il y a dans les classes dominantes ou dirigeantes une forme de... l'incapacité à regarder ce que vivent réellement les classes dominées, et c'est plutôt une spécificité française.
Oui,
et par rapport à d'autres pays, elle est cette espèce de cécité nourrie de bonne conscience, elle est flagrante, et dans le patronat français, il y a eu vraiment historiquement, il faut des situations de crise pour que des choses viennent à la surface. Mais vraiment, il y a une manière d'entretenir son aveuglement. Alors Christian, tout à l'heure, il a dit, quand je suis allé négocier, j'ai senti la haine, mais très souvent, c'est simplement du mépris, hein, qu'il y a chez des dirigeants, des responsables, il y a une forme de mépris des ouvriers avec qui ils travaillent. Nous, quand on est arrivé à Sochaux, alors je dis nous, c'est Stéphane Beau et moi. Stéphane Beau enseignait à l'école normale supérieure. Donc il a pu faire des lettres, se prévaloir de son enseignement à l'école normale supérieure et demander, puisqu'il s'intéressait au système de formation. Bon, et il n'a pas du tout fait état. J'avais déjà publié des articles avec Peau Rouge. Moi, j'étais en circuit, mais il est allé. Demandé à discuter avec les gens de la cellule de formation. Enfin, la cellule, c'était... il y avait autrefois des écoles professionnelles Peugeot qui avaient disparu, mais il y avait quand même, dans les années 88-89, c'est le moment où on a commencé à travailler ensemble, un groupe important, hein, avec un staff, hein, autour. Bon, on est je l'ai accompagné, il m'a présenté rapidement, mais les gens de ces groupes pensaient que Stéphane Beau était un représentant de l'ENS Science. Pour eux, il n'existait que l'ENS Science, c'est pas l'ENS Lettres. Donc, il a discuté avec eux sur le système de formation. Et moi, j'étais en quelque sorte son assistant, je ne bouffais pas. Voilà, il discutait. Mais, donc là, les discours s'exprimaient avec une parfaite naïveté, une parfaite franchise. Ces discours sur les irrécupérables, sur les inconvertibles, ces types qui avaient 40 ans et dont il fallait savoir faire le sacrifice, il nous les a sonnés en pleine figure. Et nous, on faisait la bête, d'ailleurs, parce que ce qui nous intéressait, ce n'était pas de les contredire, mais c'était essayer de comprendre ce qui était dans la logique et les choses qui allaient se passer, qui sont effectivement passées. La façon dont, les anciens ouvriers de type ancien, qui avaient des CAP de type ancien, ben, on les poussait vers la sortie doucement, et puis on préférait embaucher des gens jeunes. Il y avait un système qui avait été élaboré dans ces années-là, s'entendre avec l'université de Besançon, des types qui sont pas qui sont au niveau bac, qui n'ont pas le bac, mais qui auraient pu l'avoir. Ça, c'est une clientèle intéressante parce qu'ils sont déjà formés, mais on ne sera pas obligé de les payer en fonction du bac, etc. Donc, toutes ces stratégies-là, ils nous les racontaient à livre ouvert. Et c'était intéressant, mais je dis ça, c'était ce qui passait à travers ça, c'était souvent alors l'origine de ce mépris. Ça pouvait être selon que les ingénieurs venaient de Paris, selon ou qu'ils venaient de la province, ça prenait des modulations différentes. Mais il n'empêche que la vision qu'ils avaient du monde salarié, qui était une vision bien française, hein, je dirais, c'était une vision au mieux condescendante, au pire méprisante, et quelquefois chez des extrémistes pleines de haine.
Autre question ? Là, il n'y a pas de micro, tu peux intervenir.
Je voulais dire que dans le film, il y a quand même un recul sur les acquis, les acquis sociaux, puisque cette fille qui travaille le soir, la nuit, elle est contente d'y aller la nuit, alors qu'il y a eu des luttes justement pour que les gens ne travaillent pas la nuit, de même que je pense aux copines de la Redoute qui avaient lutté pour que la Redoute ferme le samedi. Maintenant, les copines, elles se battent pour y aller le samedi parce qu'elles sont mieux rémunérées. Alors c'est vraiment, je sais pas, c'est se tirer une balle dans le pied aussi.
Exactement.
Et oui, puis, je crois, et je voulais vous dire, je sais pas si c'est vous que j'ai vu dans un précédent documentaire qu'on avait passé dans un festival qu'on avait créé il y a quelques années, qui s'appelait Pour une critique sociale du capitalisme, c'est vous, qui aviez parlé des femmes, des jeunes femmes qui étaient employées à Sochaux justement, et qui entraient en concurrence avec les jeunes hommes sur le marché de l'emploi, le patron préférant employer ces femmes parce qu'elles étaient certainement plus malléables, plus soigneuses, enfin, c'est généralement les qualités dont on vous affuble. Je sais pas, c'était vous.
Oui. Voilà. C'est toujours compliqué, je veux dire, il ne faut pas oublier que le pays de Montbéliard est sinistré par la crise, on tourne à 14% de chômeurs, etc. Donc beaucoup aident encore dans ceux qui ont des jobs, c'est souvent des petits boulots, des boulots précaires, intérim, etc. Et donc c'est vrai que ces jeunes femmes qui ont galéré des fois 10 ans, 15 ans de petite mission en petite mission, le jour où ils ont l'opportunité de... Quand l'usine s'est ouverte au travail de nuit, à notre grand regret, je veux dire, mais c'est des salaires augmentés de 300 euros. Voilà, donc il faut bien se rendre compte d'une réalité qui, à mon avis, quand on discute avec elle, je veux dire, moi j'ai longtemps travaillé de nuit, j'ai travaillé 15 ans de nuit, et quand on discute avec elle sur le fond, elle ne tienne pas du tout à travailler de nuit, hein, mais il y a 300 euros, et en plus, souvent, c'est quand même des femmes isolées, il y a le problème de la garde des enfants, c'est plus facile à faire garder, à faire dormir les enfants la nuit, que la journée, parce que là on sort du boulot, on les récupère. Y a tous ces aspects-là, les femmes divorcées qui arrivent à 40 ans, qui demandent aussi à travailler de nuit, parce que c'est une façon de dissimuler d'une vie sentimentale, et voilà, à l'usine, après je dors et c'est terminé. Il y a tous ces aspects-là qu'il faut voir. Et puis il y a toutes ces jeunes femmes qui, à un moment donné, parce que les histoires d'intérim, au bout de deux contrats, Peugeot ne peut pas rembaucher. Donc voilà, et donc à partir de là, il s'est trouvé des années où il était coincé pour trouver du personnel. Même jeune. Et donc, il a commencé à faire sortir un nombre de personnel, les jeunes femmes qui vivaient dans les grands ensembles, qui avaient fait des études et qui souvent ne bougeaient plus de chez leur mère, etc., je veux dire, dans toutes ces familles, il est obligé de taper dans leur porte pour les faire amener à l'usine. Et moi, j'ai vécu des choses extraordinaires dans cette usine. J'ai vu une gamine que Michel a connue aussi, une copine qui s'appelait Dalila, arriver paniquée à l'usine, qui avait 25 ans, qui n'avait jamais bossé dans une boîte, terrorisée parce que dans l'univers d'hommes, etc., où on était, n'était pas plus malheureuse, hein, parce qu'on était dans un secteur de retouche, donc ça se passait bien, mais elle était terrorisée complètement. On l'a vu un an après se transformer complètement et penser qu'à une chose, ça te tirait de cette région et à trouver un job dans la région parisienne, ce qu'elle a fait, etc. Donc ça peut aussi être très différent par rapport à l'apprentissage. Mais c'est vrai que ce truc par rapport aux avantages acquis et ses recul en arrière, c'est évident, mais ça c'est, je vais dire, enfin tout le discours sarkozyste de crise, pas d'ailleurs pas que de sarkozyste, hein, mais de crise, pousse, à l'heure actuelle on parle de quoi? La flexibilité, c'est ça, à chaque fois que le FMI fait des préconisations, etc., c'est la flexibilité, on voit ça arriver gros comme une maison, en Espagne, en Grèce, partout, alors nous on la connaît déjà un petit peu, donc faut pas, je m'attends pas à des miracles, je veux dire, faut changer de système si on veut que ça... Mais ces acquis sociaux, la dernière en date, c'est par exemple sur une usine comme celle de Sochaux qui avait sa mutuelle, donc que le personnel était garanti d'avoir sa mutuelle, où l'employeur en payait 40%, donc hein, un truc considérable, et ben voilà, la dernière en date, c'est il n'y a plus de mutuelle. Donc la mutuelle est renégociée, l'employeur ne donne plus que 20% alors qu'il en donnait 40%, toutes les autres organisations syndicales ont signé, et nous qu'on est en retraite, qu'on pouvait bénéficier parce qu'on avait toujours cotisé dans cette mutuelle, et d'ailleurs on continue à cotiser dedans, eh ben elle est supprimée pour nous retraiter. Voilà, il faut qu'on aille dans le privé. Voilà. Voilà les nombres d'avantages acquis qui disparaissent au fur et à mesure, hein, comme ça. Voilà. Mais c'est l'effet de crise, souvent.
Là, sur le problème des femmes là, que vous évoquiez, je voudrais dire, bon, le film, je le trouve super intéressant, mais il devrait avoir un autre volet, c'est la question des équipementiers qui sont autour de Sochaux. Touchant l'usine de Sochaux, il y a une région, enfin, un parc industriel qu'on appelle le Technoland. Il doit y avoir 90 ou 110 usines. Ce sont des équipementiers, des sous-traitants de Sochaux ou des sous-traitants de sous-traitants, hein, puisque c'est des logiques de sous-traitants en cascade. Et puis, donc ça touche Sochaux. Mais entre Sochaux et Mulhouse, il y a une floraison de boîtes qui sont souvent 50, 80. Et alors là, dans ces usines-là, on a une population de jeunes, souvent surdiplômés, de femmes. Et tu évoquais Dalida. Bon, à un moment, dans le début des années 2000, c'était extraordinaire. Les employeurs de la région et la direction du personnel de Sochaux découvraient les avantages extraordinaires de la main-d'œuvre féminine jeune, et qui ne soit pas. C'est pas les garçons, les jeunes ouvriers d'origine maghrébine, il y avait des problèmes qui naissaient à ce moment-là dans les ateliers, et ça n'allait pas tout seul, il y avait des revendications islamistes, mais enfin, à ce moment-là, ça nous avait tout à fait frappé la façon dont l'éloge généralisé était fait de ces jeunes femmes qui étaient... des miracles de docilité, et donc c'est toujours ça qui nous a frappé, c'est que quand on étudie le travail, on peut étudier les conditions techniques de travail, c'est pas mal de regarder aussi les conditions sociales des travailleurs et les caractéristiques sociales. Et à ce moment-là, pendant 5 ou 6 ans, il y avait un engouement formidable pour ces jeunes femmes d'origine immigrée qui étaient soumises, qui avaient les qualités qu'on a si longtemps prêtées aux femmes. Mais en tout cas, à côté de l'usine, il faut bien voir qu'il y a une myriade de petites boîtes qui ont des logiques de recrutement et des formes de travail aussi. On peut dire à Sochaux, ça passe pour être très bien par rapport aux boîtes du Technoland. Et c'est pas loin, hein, c'est à 10 km, mais les boîtes du Technoland, elles paraissent un enfer à ces jeunes, à beaucoup de ces jeunes.
Je vais me permettre d'ajouter un point, je suis quand même économiste. Il y a évidemment un cadre macroéconomique qui change complètement sur la période qui est dans le film. On est plutôt sur la fin du Fordisme et puis le début de ce qu'on peut appeler le post-Fordisme sans perdre le point de vue travail, mais on doit appeler ça l'économie dominée par la finance. C'est à ce moment-là que ça arrive, et clairement, ça échappe complètement au film, cette dimension, mais ce n'est pas son sujet. C'est quand on change les règles du jeu et qu'on fait en sorte que le rapport capital-travail, il ne se territorialise plus sur un lieu qui peut être la France, dans lequel on peut se bagarrer. Parce que les patrons, ils sont en face, ils sont français. Et qu'on fait en sorte que l'un des deux acteurs, le capital, il puisse se déplacer sans problème. Alors que le travail, lui, il est là stocké et qu'on augmente le chômage de masse pour faire pression sur la revendication et les salaires, on change complètement la lutte des classes. Complètement, du tout au tout. Alors après qu'individuellement, dans tel ou tel cas, il y a des gens qui se raccrochent à ce qu'ils peuvent pour survivre, ça se comprend, mais la logique des acquis sociaux, elle a forcément un cadre législatif qui se consolide au niveau national. Alors, que l'Europe ne soit pas ce bon cadre législatif-là, parce qu'évidemment, l'orientation de la construction européenne, elle est loin de vouloir le bonheur des gens, c'est un autre sujet. Mais c'est là que ça se joue. Alors, on voit bien un Peugeot qui bascule d'une grande entreprise fordiste, dans laquelle il y avait des conquêtes sociales qui étaient obtenues dans les années 60-70 et qui pouvaient diffuser dans le reste du corps productif à une situation où on résiste comme on peut, le nombre d'ouvriers baisse,
Et puis, vous avez déjà un emploi, vous ne voudriez quand même pas un salaire en plus, parce que c'est un peu ça. Alors là, c'est complètement un autre monde. Mais ça, c'est le monde dominé par la finance. Alors évidemment, maintenant qu'on a un monde dominé par la finance, on peut faire les vierges impuissants en disant, écoutez, vous comprenez, nous, on ne peut rien faire. Les capitaux, ils vont s'en aller. Si on n'en propose pas des conditions de travail qui nous rendent compétitifs, je ne vais pas développer là, parce que ça, c'est matraquer tous les jours dans les médias. Hein, ça, c'est le truc, matraquer tous les jours dans les médias. Il faut s'adapter à des conditions, mais on oublie que les conditions actuelles auxquelles il faut s'adapter, c'est une construction, ça a pris 20 ans, 30 ans, hein, c'est une construction progressive d'acteurs étatiques, supranationaux et puis les grands groupes, pour se retirer du carcan dans lequel la lutte des classes avait réussi à enfermer le capital pour obtenir des droits. Voilà. Donc du coup, il y a quand même un cadrage macroéconomique, l'alliance objective des sociologues avec les économistes là-dessus...
Je précise que
c'est
dans le
cas
particulier. Non, voilà,
moi, je suis militante syndicale, voilà. Donc ce n'était pas une critique, c'était juste une observation du recul des acquis pour pouvoir actuellement, soit là ou ailleurs. Oui.
Recul et disparition.
Dans le cas particulier de Peugeot, les constructions d'usines se font en Slovaquie, en Tchéquie et Slovaquie, et en même temps que les usines partent les équipementiers, les boîtes d'équipementiers.
Qui étaient déjà dans une relation de sous-traitance, parce qu'on avait cassé la grande firme fordienne qui intégrait tout ça.
Absolument.
Ah, et chez les équipementiers, le taux de syndicalisation de la CGT est probablement moins important que dans l'entreprise, etc., etc. À bout du bout, il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus rien, il n'y a plus de loi, on est en Slovaquie, et même plus loin. Donc c'est le monde dans lequel on est, c'est pas une fatalité, il a été construit pendant 30 ans. On a un monde de merde qu'on a construit, je ne sais pas vous et moi, mais un peu tout le monde. Et puis là, on peut toujours tortiller un peu pour savoir si on va faire 3% de dette ou 4%, enfin vous voyez, des trucs de ce niveau-là. Les rouages ont été quand même, on a plus la main dessus, vraiment plus la main. Il y avait une deuxième question, je pense, dans la foulée de la première.
Bonjour, alors en fait... Moi, dans le film, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est la violence des gestes sur le corps. Notamment le jeune employé qu'on voit à la fin, qui est filmé de manière très, très proche. La violence des gestes, l'action sur le corps, tout ça. Et aussi, ça, mais aussi le fait que ce soit un silence total, quoi. Les mecs ne se parlent pas entre eux. Et ça, je voulais savoir si, dans les années 70, c'était déjà le cas, ou bien c'est une conséquence de la consommation des... Les méthodes.
Oui, non. Dans les
années parce que ça aussi, c'est une conséquence. C'est une conséquence sur la santé des gens, la souffrance.
Non, mais le film est fait pour ça, pour bien montrer que ce qui permettait à un groupe d'accepter des mauvaises conditions de travail, etc., c'était cette solidarité qu'il y avait pendant un moment, tous ces conflits sociaux qui pouvaient exercer, je veux dire, qui déterminaient les jaunes, les pas jaunes, etc., et qui faisaient cohabiter tout ça. Or, avec la mise en place du Lean, donc, parce que c'est bien de ça qu'il faut parler, comme ça se fait à la poste, comme ça se fait sur les plateformes, etc., c'est que ça, la recherche au temps, au mouvement que nécessaire au cœur de métier, comme dit notre compte patron, mais pas l'autre chose, ça pousse à ça. À savoir qu'on travaille sur une chaîne de montage. Les deux ou trois secondes, mais je le dis dans le film, les deux ou trois secondes qu'on avait pour aller chercher une pièce, pour monter un peu, pour discuter, sont nécessaires à l'équilibre humain. Or là, c'est ce qu'on est en train d'enlever. Donc ces deux ou trois secondes sont récupérées systématiquement parce que les pièces sont en proximité, le mec il fait plus que ça, la visseuse, etc. Et donc il est en permanence dans le boulot. Donc il n'y a plus de place pour aucune discussion. Les discussions que peuvent y avoir, c'est deux pauses dans la journée, le temps de casse-croûte. Mais il ne faut pas oublier que les patrons aussi ont été malins. C'est une fois 7 minutes et une fois 12 minutes. Et il n'y a plus le droit de fumer dans l'usine. Dans les ateliers, qu'est-ce que font les mecs? Mais ils se tirent fumer leur clope tranquillement, ils vont aux toilettes. Et pendant le casse-croûte, il n'y a plus de grands réfectoires comme on pouvait connaître dans les années 70 ou 80. C'est par petites unités, chaque équipe a son bureau de chef d'équipe de RU et à côté une pièce où on peut manger. C'est-à-dire que vous mangez avec votre chef d'équipe. Qui peut écouter absolument tout ce qui se dit. Or, c'était pendant les casse-croûtes qu'il se passait des choses essentielles. Les trois quarts des prises de parole qu'on a pu faire dans l'usine étaient pendant les temps de casse-croûtes. Sauf que maintenant, divisé comme c'est, il ne faudra pas faire une prise de parole pour 10 gus dans un coin, puis recourir dans un autre pour en faire pour eux. Voilà, on avait les 200, 300 personnes. Voilà le changement. Donc, ils n'ont pas agi n'importe comment. Dans les vieilles usines, il existait, je veux dire, elles étaient pourries, elles sentaient mauvais, etc. Mais on les aimait bien parce qu'il y avait des solutions de, comment dire, de vie sociale différentes. Il y avait les chapelles où on buvait l'apéro, je veux dire, derrière les grands placards. Tout le monde le savait, mais en même temps, ça passait inaperçu. Bon, c'était planqué, il y avait des fosses. Personne ne voulait travailler en fosse sous les bagnoles, parce qu'il y avait des rats, ça puait, etc. Sauf que les gars qui travaillaient en fosse ne voulaient jamais remonter. Il n'y avait pas de chef non plus. Hein. Quand on est en fosse, et qu'il n'y a plus, ils ne viennent pas. Hein. Faut pas... Donc, il y avait, le boulot était fait, mais en même temps, sans surveillance. Tous ces aspects-là ont été... Les placards qui mesuraient 1m80 ont été coupés en deux. Ils ne mesurent plus que 90 cm, ce qui permet au chef d'équipe qui est en bordure de chaîne de pouvoir surveiller la totalité de l'atelier. Il n'y a plus aucun moyen de se planquer, même deux secondes. Il n'y a plus le droit d'emmener un sac de casse-croûte à son poste de travail. Il n'y a pas le droit à la bouteille d'eau au poste de travail. Vous êtes là pour travailler. Il n'y a plus de poche au pantalon de travail. Il faut bien se rendre compte jusqu'où ça peut aller. Soi-disant parce que les mecs ils promènent des briquets dans leur poche et ça peut abîmer les voitures. Ben, c'est plutôt qu'un ouvrier, il n'a pas à mettre ses mains dans ses poches, on le paye pour bosser, qu'il bosse, quoi. Puisqu'il a que ses mains, ben, qu'il utilise ses mains. Ben, c'est ça le fond du problème. On en est là, je veux dire. C'est ça le ligne de la situation décrite. Elle est comme ça. Et ça va encore se durcir. Parce que plus la flexibilité va s'agrandir, ces 6 jours de travail, j'en parlais tout à l'heure en plaisantant, mais c'était une horreur. À l'heure actuelle, les gens qui travaillent de nuit vont à l'usine le dimanche soir. Ben, parce que c'est ça. Il faut des bagnoles, donc voilà. On va faire des bagnoles, mais jusqu'à quel moment ça va péter, à quel moment ça va tenir. Alors, le volet intérim sert à ça, c'est pas des petites, comment dire, c'est pas des petites boîtes d'intérim, c'est 2000 intérims, ça dépend. Il y a des périodes où il n'y a plus que 1200 intérims, il y a des périodes où il y a 2500. Voilà, et c'est eux qui passent à la trappe, et les postes durs sont tenus par ces jeunes, souvent des cités, des quartiers populaires, qui à un moment donné n'acceptent plus ce genre de travail, donc ils viennent, ils se tirent, c'est un désastre. Le turnover, l'absentéisme qu'on n'avait pas vu pendant toute une période, parce que la crise, quand elle a commencé à frapper, chacun se tenait un peu et faisait gaffe, reprend une activité, 8% d'absentéisme sur les chaînes de montage. Voilà ce que ça met, 8% sur une chaîne de montage, c'est beaucoup, il manque 8 personnes, comment on les trouve? Donc c'est les chefs d'équipe qui sont en poste, les moniteurs sont en poste, tout le monde est en poste, faut que ça tourne, jour et nuit. Et c'est ça où on comprend, où des fois il y a incompréhension, c'est que les temps qui sont répartis dans le travail, les gens qui travaillent à la poste, ils avaient le temps un petit peu de discuter, de machin, etc. Du jour où on leur supprime ce temps qu'ils avaient social, ben voilà, ils tiennent fous. Ben, c'est ce qui se passe sur une chaîne de montage, sauf que là, il y a une nécessité économique de pouvoir bouffer avec des petits salaires, parce qu'ils ont galéré pendant 6 ans d'avoir un premier job, et donc ils s'y accrochent, et ils se donnent à fond, mais voilà, mais jusqu'à quel moment l'épuisement physique va arriver? Qu'est-ce qu'on va soigner? Quand j'étais encore à l'usine et qu'on discutait en CHSCT par rapport à ces gamins qu'on engage dans des postes très difficiles en sachant très bien que les articulations vont être cassées au bout de 10 ans, etc., le patron nous répondait carrément, c'est des intérims, ils iront se faire soigner ailleurs. Non mais, la conciliation avec mon patron, moi, ça a toujours été compliqué, quoi. Je veux dire, il reste la médecine du travail comme échappatoire, elle existe encore en France, pas pour longtemps, puisque Sarko a ça dans ses cartons, les dégager pour mettre des infirmières avec un an de plus d'études pour dégager les médecins du travail. C'est le seul recours qui reste à un gars qui est en chaîne, qui a des difficultés, avoir le médecin du travail qui lui fait une préconisation pour changer de poste ou un aménagement de poste. Or, là, les patrons ont été pleurés à l'Élysée, Sarko les a fortement écoutés, donc la suppression des médecins du travail est envisagée, et on mettra à la place une infirmière qui fera un an de plus d'études. Voilà. Mais qui n'aura plus la faculté, elle ne sera pas médecin, donc elle pourra plus mettre aménager ou à la recherche des postes disponibles moins violents. C'est ça qui est dans les cartons. Et on voit bien que toute une société bouge, et que là, nos acquis, si toutefois c'était des acquis, alors j'espère que ça va changer dans pas longtemps. Reste à savoir combien qu'on va mettre d'inspecteurs du travail de plus, comment la médecine du travail va être réformée, etc. Parce que pour l'instant, on a des contenus électoraux, on n'en parle pas beaucoup. Mais pourtant, on a connu Sochaux, la plus grande usine de France à 44 000 salariés, avec un inspecteur du travail. À l'heure actuelle, à 12 000 salariés, il nous reste un quart d'un inspecteur du travail. Un quart de temps, 12 000 salariés. Non, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Avec des conflits comme ça, des conflits par rapport aux accidents de travail, aux maladies professionnelles permanentes, etc., avec des situations de litige, bon, ben, il n'y a plus personne. Systématiquement, c'est les prud'hommes, quoi.
Oui. Je pense qu'il faut quand même dire une chose. Enfin, il faut quand même dire un certain nombre de choses du film, parce que ce que vous avez dit montre que quand même la rencontre entre entre vous, elle est liée au groupe Medvedkin. Donc, en quelque sorte, ce que vous avez dit, si j'ai bien compris, c'est que des cinéastes sont venus faire des films aux ouvriers. Cette chose-là s'est arrêtée. Certains sont restés et ont souffert de cette situation. Et c'est un sociologue qui prend le relais, en quelque sorte. Ce qui est, au fond, comme s'il fallait qu'il y ait quelque chose du travail des uns qui passe dans le travail des autres. Bon. Et là, dans ce film, il n'y a rien qui apparaît. C'est une espèce de film qu'on pourrait, j'exagère encore, mais qu'on pourrait passer dans des documentaires à la télévision. Alors peut-être que c'était un film qui a été
diffusé.
Il y a des informations, hein, il n'y a pas de raison, c'est mieux que rien, machin. Mais enfin, quand même, on est à des années-lumière du type de projet qui a porté les groupes Medvedkin et votre sociologie à vous, et même du couple que vous formez aujourd'hui, on voit un sociologue finalement qui donne la parole à un ouvrier et inversement. Bon, vous symbolisez quelque chose qui est, à mon avis, assez d'ailleurs unique dans l'histoire de la sociologie, qui a pu donner envie à des gens de faire la sociologie. Ce que vous dites, par exemple, du travail et de cette déshumanisation du travail, c'est en rapport exact avec ce qui a été publié dans de la recherche en 84. Bon. Et ça ne trouve strictement aucun écho dans ce film. Donc là, je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec votre introduction. Il faut faire un peu de critique cinématographique et se demander, je ne sais pas, je sais pas quelle est la question qui suit, mais où sont les cinéastes, où sont les sociologues, où sont les relais, je ne sais pas. Mais ce n'est pas avec ce type de production cinématographique qu'on va pouvoir être dans la continuité d'un travail formidable qui a été fait pendant des années par des cinéastes et des sociologues, et Bruno Mouel, et ainsi de suite.
Il faut répondre. Non, mais c'est compliqué. Je veux dire, il y a Laurence qui fait le film là est tout à fait complètement différente de Bruno Muel, enfin du groupe de Medvedkin. Donc ça ne s'inscrit pas du tout dans cette chose. Et fait un documentaire parce que nous, qu'on pense important syndicalement, parce qu'il explique bien le lean et ce qui est en cause à l'heure actuelle, quand on voit les plateformes, quand on voit tout ça, en fait, c'est le même cheminement. Je trouve qu'il est bien raconté dans le film, comment qu'on raccourcit les séquences de travail, etc., et qu'on rend les gens malades, puisque c'est quand même cité, dit dans le film, etc. Moi, je crois que c'est une bonne doc pour apprendre aux gens ce que c'est quand on parle de productivité et d'avancer dans ce genre de truc. Par contre, alors, par rapport à mon histoire personnelle, c'est vrai que c'est toujours compliqué d'en parler de cette façon-là, mais enfin, je vais vous répondre. Moi, j'arrive à l'usine, c'est vrai, et je cherche un tas de bouquins, C'est difficile d'être dans une province française. Je pense que quand on habite dans une grande ville comme Lille, c'est différent. Mais quand on est jeune ouvrier, qu'on arrive à 18 ans, qu'on nous fout en chaîne, etc., et qu'on a un peu de temps libre, ben on cherche de la doc sur le fordisme, sur le travail en chaîne. Qui a écrit un certain nombre de bouquins, d'ouvrages? Or, j'en trouve pas.
On en trouve dans le climat d'après 69.
Voilà, dans la période où 69. Hein. Et donc, j'en trouve pas. Et donc, je suis dans l'impossibilité complète de comprendre où je travaille, dans la situation où je suis mise. Je sais qu'il existe des études, je ne sais pas comment les acquérir. Et voilà, donc la rencontre avec ces cinéastes, premièrement, me permet de connaître d'autres gens et de sortir d'un champ de chaînes et de militants très, très différents, me sort de ça. Et aussi, eux m'emmènent ce contact à la littérature, enfin à un discours scientifique différent par rapport justement à cette recherche de bouquins, parce que c'est épouvantable, quand on est prolo et puis qu'on va dans un truc comme membre de la socio, ben vous savez, à 18 ans, je savais même pas que la sociologie existait, moi je ne savais pas, enfin c'est pas des choses qu'on apprend comme ça à l'école. Et donc voilà, donc après, oui, il y a tout un contact lié j'apprends des choses par rapport au contact de ces cinéastes. D'ailleurs, je ne dis pas les cinéastes, je dis pas, je veux dire, c'est plus compliqué que ça, les groupes Medvedkin. Les groupes Medvedkin, c'est pas quelque chose, c'est d'un côté les cinéastes et de l'autre côté les ouvriers. C'est quelque chose de commun, à savoir ceux qui savent tenir une caméra et ceux qui peuvent écrire des sketchs pour tourner des films. Et donc, cette association fait qu'à un moment donné, on a travaillé pendant 6 ans. De cette façon-là. On se voyait le week-end ou le soir après les heures de boulot et on se disait qu'est-ce qu'on fait demain. Et si on racontait comment on est arrivé à l'usine, si on racontait comment les tests d'embauche, comment ils sont. Et il arrive un tas d'idées comme ça où on se met en place, où on les écrit, où on les formule, et les cinéastes sont à notre disposition donc pour les mettre en scène et pour les filmer. Voilà un peu les mots de Medvedkin, ça donne des films très différents. C'est pour ça que c'est une expérience un peu unique. Mais à travers ces cinéastes-là, on rencontre d'autres gens, d'autres intellectuels, dont Francine Muel qui vient, et elle qui a été longtemps celle qui m'a paru, qui m'a beaucoup donné de lecture, etc. Il ne faut pas oublier que dans le même temps, dans ces années-là, parce qu'il y a une chose qu'on ne parle pas beaucoup quand on est ouvrier, c'est souvent les comités d'entreprise. Or, les comités d'entreprise, à l'heure actuelle, qui sont devenus des vendeurs de patates, ou distributeurs de cadeaux de Noël, ou de fêtes des mères pour certains, ou même de layettes pour les nouveaux enfants, à une époque, quand même, fonctionnaient autrement. Au moins, celui de Sochaux, acheter une maison de la centre de loisirs, on pouvait, avec une table de montage de 16 mm, on pouvait monter nos films, on avait embauché une troupe de théâtre, on avait fait notre propre bibliothèque, qui était la plus grande de France pour un CE, et notre propre discothèque. Je veux dire, les procès ont eu lieu, on a perdu le théâtre devant Peugeot, Peugeot nous a mis au tribunal. À chaque fois qu'on touche au phénomène culturel, à chaque fois le patron tape, mais fort. Je veux dire, ça va jusqu'au coup de barre à la mine sur la figure, etc. Le licenciement de tous nos acteurs de théâtre, etc. C'est ça aussi. Et les comités d'entreprise, donc à l'époque, m'ont permis à moi de me structurer aussi très différemment. Et puis là, alors, mon problème à moi, individuel, c'est d'avoir jamais su écrire. Je crois que je suis incapable, je crois que je parle dans la page blanche, je suis incapable de mettre deux mots. Je n'arrive pas. Et donc il a fallu la grève de 81 pour qu'un jour, parce que c'est compliqué de prendre la parole en public, on n'a pas fait des études littéraires, on n'a pas fréquenté le théâtre, là, on n'a pas fait de musique, je veux dire, la mise en condition de la personne qui se met devant les autres, on ne l'a pas eu. On essayait toujours de... Bah, on n'était pas trop bon à l'école non plus, je veux dire, donc on se foutait derrière les grands pour pas trop se faire voir, à cause qu'on ne nous demande pas d'aller au tableau. C'est ça aussi la situation des OS en particulier. Et dans les trucs de conflit, dans les grèves par exemple, comme Michel Canou disait tout à l'heure, que souvent c'était les OP qui prenaient la parole à notre place, c'est ça que j'ai ressenti pendant des années. Nos revendications des chaînes par rapport je dirais pas les 39 heures parce qu'à l'époque on n'en parlait même pas, mais par rapport à l'accélération des vitesses de chaîne ou l'aggravation des conditions de travail, c'était les ouvriers brésiliens qui les défendaient, alors que c'était nous qu'on les subissait directement. Et comment arriver à prendre la parole? Il faut un phénomène, un jour bizarre, c'était 81, il y avait 3000 grévistes, et un jour les copains, le copain qui parlait pas trop bien, et les autres copains m'ont poussé pour prendre la parole. Je ne l'ai plus lâché depuis, la parole, mais c'est très dur. Il a fallu 11 ans pour prendre la parole de cette façon là alors l'écriture, peut-être que ça viendra quand j'aurai 80 ans, mais pour l'instant c'est toujours pas venu. Alors avec mon copain Pialou, c'était un jour Bruno Muel nous a fait se rencontrer, on a eu beaucoup de débats, je veux dire, ça n'a pas été tout seul, mais au bout d'un moment ça a donné, une fidèle.
Dans le livre, on raconte comment on s'engueule.
On s'engueule. Moi, je crois parce qu'on n'est pas d'accord sur le mur de Berlin, on n'est pas d'accord sur Saint-Lydarnoc, j'y suis toujours pas d'accord, et puis voilà. Mais pour un tas de choses. Mais on s'engueule. Mais tout compte fait, lui comme moi, on pense que c'est plutôt nécessaire de laisser une trace écrite de tous ces mouvements qu'il y a eu. Parce que. On n'en parlerait jamais. Si je vous dis, par exemple, quand je travaillais dans l'atelier de garniture en 72, c'était un atelier 600 personnes, 300 femmes, 300 jeunes hommes moins de 25 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ben, des grossesses non désirées, bien entendu. Ben oui, non, mais enfin, ça ne peut pas se faire autrement. Après 68, quand même, on vivait. Et moi, comme délégué du personnel, les nanas venaient me voir en me demandant de régler le problème des grossesses. Qu'est-ce qu'on fait quand on est délégué CGT? On va voir son syndicat, on dit qu'il faudrait faire quelque chose. Je vais voir le PC, alors que tout le monde était contre l'avortement. Il faut se rappeler dans lequel on était. C'était pas si simple que ça, hein, je veux dire. Et donc, moi, je décide de faire un groupe avec le MLAC, de fonctionner avec le MLAC à l'époque, pour provoquer des avortements. Je veux dire, ça me paraissait normal. Ça s'est résolu, puisque la loi sur l'avortement a été faite en 74. Mais de 72 à 74, il a bien fallu que ces nanas se fassent avorter parce que c'était pas normal de tomber enceinte dans ces conditions-là. C'est un cheminement militant qui est en dehors du canal et syndical et politique, parce qu'on ne peut pas le raconter. Je veux dire, il n'y a que maintenant, longtemps après, qu'on raconte ce genre de choses. Mais ça me faisait, pour moi, il était normal, en tant que délégué CGT, de faire ce genre de choses. Parce que je trouvais cette injustice liée, suivant que les femmes avaient du fric et allaient se faire avorter en Angleterre, si elles n'avaient pas, garder leur gosse. le gosse, eh ben moi ça me paraissait pas bien. Et que les copains refusent le débat par rapport à ça, ben il fallait faire quelque chose, donc on le fait individuellement, on le fait collectivement avec un petit groupe de copains et de copines, et puis voilà. Mais c'est des choses comme ça. Si je vous racontais qu'avec les groupes de Benkin, quand Bruno Mel est parti filmer au Chili, a fait un extraordinaire film qui s'appelle, je me souviens plus du nom, Septembre chilien, et part au Chili et nous demande une avance sur recette des groupes de Benkin, on avait touché 20 millions à l'époque ancien, pour faire le prochain film, et il nous demande d'aller filmer les événements au Chili, on lui dit d'accord. Bien entendu, dans ce film, quand il revient du Chili, il y a une phrase d'une nana du Mir, qui est à peu près l'équivalent de la Ligue communiste à l'époque, et qui dit dans le film, avant d'être fusillé, elle dit dans le film, attention, nous on a créé l'unité populaire, vous en France, vous avez le problème commun, faites attention, quand les militaires, quand la droite perd le pouvoir, des fois, elle devient méchante avec l'armée, elle est fusillée une semaine après. Mais elle revient avec ce film, le passe au bureau politique du PC, et Marché demande de supprimer cette phrase. Mais elle nous téléphone en nous disant qu'est-ce qu'il faut faire. Nous on dit on censure pas, on garde la phrase comme elle est. Donc le PC veut pas diffuser le film, on se retrouve nous à Sochaux propriétaire d'un film que le PC veut pas diffuser, mais qu'aucun cinéma commercial ne veut diffuser non plus. Donc on décide à quatre ouvriers de louer le théâtre de Montbéliard, de notre poche, pour présenter le film. Et bien sûr, ça fait une exclusion du PC parce qu'il y a un non-respect du centralisme démocratique, tout le tir. Maintenant, 30 ans après, je me dis que peut-être que j'ai été le seul à être viré parce que j'ai le moins un théâtre, mais quel bonheur maintenant. Mais ce moment, ça fait mal hein, quand on est sur une chaîne de montage et qu'on se fait foutre dehors parce qu'on a loué un théâtre. C'est pas facile à avaler, je veux dire. C'est des choses qu'on vit mal dans ses tripes. Et on peut pas raconter ça à qui? À qui? C'est pas mon copain de chaîne qui est marocain ou yougoslave ou turc qui travaille à côté de moi. À qui je vais raconter que j'ai été viré du PC parce que j'ai loué un théâtre? Il a jamais foutu les pieds. Donc c'est des trucs qui tournent en interne et qu'on vit comme ça. Bon, ben voilà, mais c'est tout. Et c'est ça les groupes Benkin. Et c'est pour ça que le boulot avec Michel Pialou s'est trouvé très différent. En même temps, je veux dire, pour moi, c'était un sauvetage, dans la mesure où tout ce qui me poussait à dire m'a servi comme analyse. En plus, je n'ai pas payé.
Michel, tu vas dire quelque chose, mais ce sera le mot de la fin, parce qu'il faut qu'on arrête. Donc, si tu veux dire quelque chose, c'est le moment où j'arrête.
Non, alors vraiment, je suis content, moi, d'accompagner Christian. Dans ce genre de débat, parce que, il est à la retraite depuis quelques mois, et il y avait des choses qu'il avait sur le cœur, qu'il avait envie de dire. On a exhumé ce texte. Christian n'était pas d'accord, d'ailleurs, pas tellement d'accord pour le republier. Ça lui paraissait vraiment pas nécessaire. On en avait perdu la moitié de ce texte, parce que, je crois que c'est Stéphane Beau qui lui a expliqué que c'était quand même intéressant de ressortir des choses d'il y a 25 ans. Et moi, quand je vois, on a fait déjà 25 débats autour de ce livre, quelquefois en projetant le film, ou on a projeté d'autres films, et je pense que c'est positif, c'est quelque chose qui fait comprendre à des gens extérieurs au monde ouvrier qui sont de plus en plus nombreux, qui fait comprendre un peu ce que c'est que l'existence ouvrière qui continue à exister, en dépit du discours qui voudrait faire croire à la disparition de ce monde.
Merci. Merci à vous deux pour ces propos et parfois ces propos.